Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent lundi à tous, il est 6h58, bienvenue dans Apolline Matin, lundi 1er décembre, ça y est, novembre est derrière nous. Bon début de semaine à tous, on va s'occuper de votre pouvoir d'achat ce matin, matinale spéciale pouvoir d'achat, 7h-9h sur RMC, parce qu'aujourd'hui c'est le jour J, l'ouverture des négociations commerciales, industrielles et grandes distributions ont 3 mois pour se mettre d'accord sur les prix qu'on va tous payer dans les rayons. C'est sur RMC que ça se passe, les deux parties sont face à moi ce matin. 7h40, le représentant des grandes marques d'industriels. 8h30, le quasi porte-parole de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc. Les prix qui repartent à la hausse depuis le début de l'année. Plus 27% sur le café, plus 20% sur le chocolat, plus 12% sur la viande hachée. Vous le constatez? Est-ce que vous avez d'ailleurs changé vos habitudes? Est-ce que vous craignez une nouvelle flambée des prix? Je vous attends au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission. 0612 424 424 RMC au service de votre pouvoir d'achat. Et puis ce matin sur RMC et jusqu'à Noël, on va vous faire gagner des cadeaux. Dans Apolline Matin, chaque jour, on ouvre une case du calendrier de l'Avent ensemble. Soyez bien à l'écoute, il y a des cadeaux exceptionnels à gagner et vous aurez l'occasion de jouer d'ici 9h. Apolline Matin, c'est parti, il est 7h tout pile. Et du côté du temps, Géraldine, c'est le début de l'hiver, le vrai hiver.
Oui, l'hiver météorologique. Il n'y a pas que le calendrier de l'Avent qui commence le 1er décembre, il y a aussi l'hiver. Et on va bien le sentir parce que c'est un temps bien hivernal qui va nous intéresser aujourd'hui avec beaucoup de nuages entre la Bretagne, le Poitou-Charentes, le centre, l'île de France, les côtes de la Manche. La pluie qui va revenir par la pointe bretonne cet après-midi, une forte pluie avec pas mal de vent. En revanche, en allant vers le sud, on va retrouver quand même du soleil et quelques averses entre la Côte d'Azur et la Corse. Température à nouveau en baisse, on retrouve des gelées quasiment partout sauf près des côtes ce matin. Cet après-midi, 3 degrés seulement à Dijon, 7 à Lyon, 8 à Paris, Lille, 9 à Bordeaux ou encore 12 pour Marseille.
Très bon réveil à tous, il est 7h sur RMC, matinale spéciale pouvoir d'achat.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Que vous paierez à la caisse demain se joue dès aujourd'hui. Coup d'envoi des négociations commerciales à l'heure où les prix grimpent. Vous le disiez Apolline, matinale spéciale pouvoir d'achat sur RMC. L'optimisme de Donald Trump sur un accord de paix en Ukraine. Son émissaire débarque en Russie à l'heure où Volodymyr Zelensky est attendu à Paris. La Ligue 1, qui a un nouveau leader ce matin, lance. C'est une première depuis plus de 20 ans pour les nordistes. Vainqueur 2-1 hier à Angers.
Le bras de fer des négociations commerciales.
Elle s'ouvre ce matin entre industriel et grande distribution. 3 mois de tractation pour s'arracher le moindre centime, fixé les prix de nos produits de grandes marques, de nos rayons, des produits de plus en plus chers depuis la rentrée. Nous dit Circana, café, chocolat, viande hachée et en bout de chaîne, ça finit par peser lourd sur le ticket de caisse de ces consommateurs, rencontrés par Martin Bourdin en banlieue parisienne.
Les courses bien rangées dans le coffre de sa voiture, Awa quitte le magasin désabusé.
On a fait 200 euros de course, mais le caddie n'était pas rempli. Hein. Il y a 3 mois, ça allait un peu par rapport à maintenant. On voyait le caddie rempli pour le même budget.
Des hausses de prix qui se font particulièrement sentir sur certains produits.
Tout ce qui est produits laitiers, chocolat et viande hachée, ça a encore plus augmenté.
Une augmentation de plus de 12% en un an pour la viande hachée, d'après le baromètre Circana. Presque 20% de plus pour une tablette de chocolat. Beaucoup de clients se retrouvent donc à comparer de nouveau les prix entre enseignes. Giuseppe, lui, passe plus de temps désormais à choisir son café, dont le prix moyen a grimpé de 27% sur l'année, d'après la même étude.
Souvent, on prend des promotions. Vous savez, des fois, quand ils font des 2 plus 1 ou des choses comme ça.
Et ce n'est pas l'ouverture des négociations commerciales aujourd'hui qui va rendre optimistes les clients.
C'est un arrangement entre eux, mais en fin de compte, les prix augmentent toujours.
Il faut faire quelque chose. C'est plus possible.
Je ne crois pas qu'il va y avoir du mieux d'ici les prochains mois.
Bien sûr, ça va être compliqué. Il va falloir couper quelque part.
De toute façon, on ne paiera jamais moins, résume amèrement un autre client garé juste à côté.
Et cette matinale spéciale pouvoir d'achat, ne manquez pas, eh bien, toutes les parties. Elles se retrouvent sur RMC dès ce matin. Les industriels, c'est à 7h40. Michel-Édouard Leclerc, c'est à 8h30. Et vous, bien sûr, vous, au 32-16, vous nous appelez, vous témoignez. Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Est-ce que vous redoutez une nouvelle flambée des prix? Le 32-16 ou le WhatsApp de l'émission 0612 424 424.
Volodymyr Zelensky à Paris ce lundi, attendu par Emmanuel Macron à l'Élysée, 10h ce matin, 2 semaines seulement après sa dernière visite en France. Déjeuner de travail et sur la table cet accord de paix proposé par les États-Unis il y a 2 semaines, revu et corrigé depuis. Dernier réglage ce week-end en Floride, négociation jugée productive par Donald Trump.
Ukraine's got some L'Ukraine a quelques petits problèmes. Il y a une situation de corruption, ce qui n'aide pas. Mais je pense que la Russie aimerait que ce conflit se termine. Et je pense que l'Ukraine, je sais que l'Ukraine aimerait que cela se termine. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'un accord soit conclu.
Un accord qui passera par Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, va rencontrer Steve Witkoff demain à Moscou. L'émissaire américain doit s'envoler ce lundi pour la Russie.
7h03 sur RMC. Promesse d'Emmanuel Macron à plus d'un million de Français à mobilité réduite. La gratuité des fauteuils roulants.
100% remboursé par la sécurité sociale à partir d'aujourd'hui. C'est une réforme d'autonomie, dit le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la mesure était très attendue par les premiers concernés. Rachel Sadodine, vous nous expliquez ce matin comment fonctionne ce dispositif.
Eh bien, le but, c'est de simplifier et d'accélérer les démarches. Jusqu'ici, pour avoir un fauteuil roulant, les personnes en situation de handicap devaient bien souvent avancer les frais, solliciter leur mutuelle, faire le tour des financeurs, collectivités locales ou encore cagnotte en ligne. Dorénavant, une fois votre prescription en poche, il vous suffira de l'adresser à l'assurance maladie et votre fauteuil vous sera envoyé sans avance de frais ni reste à charge. Un projet louable selon Sébastien Pailletavy, mais le député lui-même en situation de handicap craint qu'il ne concerne en réalité que les fauteuils les plus classiques.
Je pense qu'il y a certains fabricants qui ne jouent pas le jeu. On a plein de fauteuils en fait qui sont sortis des catalogues, qui existaient jusqu'à présent, que l'on pouvait commander. On ne pourra plus les commander. Moi, par exemple, sur ma marque de fauteuils, ils font un effort et disent que le fauteuil est dans le remboursement, sauf qu'il y a énormément d'options qui renvoient en fait à des demandes sur devis.
Le député Génération lance donc un service après-vente de cette mesure. Un site internet sav.reformefauteuil.fr sur lequel il invite toutes les personnes en situation de handicap à faire part de leurs éventuelles difficultés.
À la recherche d'un compromis et à la veille du retour du budget de la Sécu à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu entame une série de consultations. Ça commence avec les socialistes ce lundi. Un septuagénaire toujours en garde à vue ce matin, soupçonné d'avoir écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella samedi. En dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, coutumier des faits, il avait été condamné à 500 euros d'amende pour un geste similaire sur Éric Zemmour. En 2022, une agression est inacceptable, dit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. 1000 euros, c'est le montant d'une caution que veut imposer au futur marié le maire de Compiègne, dans l'Oise, lassé de débordements en tout genre. Une mesure forte visant à prélever tout ou partie de la somme en cas de retard ou de dégradation, Lucas Laubert.
Oui, le dernier dérapage dans la commune date d'il y a moins d'un mois. Des mariés refoulés d'un parc ont tenu tête à des policiers, des cérémonies et cortèges régulièrement agités, a constaté Christophe.
C'est le bazar. Ils respectent pas la circulation, ils font un peu ce qu'ils veulent.
C'est pour ça que le maire veut mettre en place cette caution. En cas de frais de nettoyage, 200 euros pourront être retenus, 400 euros pour chaque demi-heure de retard, justifié pour Christelle.
Oui, c'est notre plus beau jour de notre vie, mais en fait, on est obligé aussi de faire attention à ce qui se passe autour et de respecter aussi son prochain. Ça nous responsabiliserait en fait, tout simplement.
Pas pour Antoine, lui qui envisage de se marier prochainement, une contrainte financière injustifiée selon lui.
On est là pour profiter, donc si on plus, on doit être imposé parce que, je sais pas, on a bu un coup un peu trop tard par rapport à arriver à la mairie. Non, j'irais me marier dans une autre ville.
Mais ces retards peuvent s'accumuler, de quoi créer la pagaille à l'hôtel de ville, d'où cette caution, explique le maire Philippe Marini.
Les mariages, vous en avez 10 à la file, quand vous en avez un qui dérape, ça devient compliqué. C'est du bon sens, pas plus.
Si elle est approuvée au conseil municipal, la caution entrera en application avant la fin du mois.
7h07, Lens dans le fauteuil du leader.
Un vainqueur à Angers, 2-1 hier après-midi, grâce à un doublé de Florian Thauvin. Les nordistes profitent des faux pas de Paris, de Marseille pour s'installer en tête de la Ligue 1. 21 ans que ce n'était plus arrivé, Xavier Grimaud.
Oui, et c'est une vraie performance car il faut remonter à août 2004 pour voir le RC Lens seul en tête du championnat, l'attaquant Florence Otokasavo.
C'est magnifique, ça avait récompensé notre très bon début de saison parce que ça faisait 21 ans. Il me semble bien que le Racing Club de Lens n'avait pas atteint la première place, surtout à ce stade de la saison, donc c'est pas anecdotique.
Avec 10 victoires en 14 journées, Lens est à sa place, le double buteur du soir, Florian Thauvin.
Il y a une très belle mentalité, il y a un bon état d'esprit avec des garçons qui sont humbles, sensible, généreux, il y a beaucoup d'humilité dans ce groupe, donc on a un objectif et tout le monde respecte cet objectif et ce sens-là.
Lens peut-il maintenant ambitionner de rester tout en haut, le capitaine Adrien Thomasson?
On va vouloir rester dans le haut du tableau le plus longtemps possible, ça c'est une certitude. Après, il faut être ambitieux, je ne dis pas qu'il faut jouer le titre, mais dans la vie, il faut toujours être ambitieux. On a 31 points après 14 journées, c'est pas neutre, capitaliser dessus.
En 2004, Lens n'était resté qu'une journée en tête du championnat, en déplacement à Nantes le week-end prochain. prochain. Les 100 et or tenteront cette fois de prolonger le plaisir.
Et au pied du podium, il y a Lille, vainqueur au Havre 1-0. Lyon est 6e après sa victoire 3-0 face à Nantes hier soir en clôture de cette 14e journée de Ligue 1. En top 14, Pau reprend la 2e place à Toulon, vainqueur de La Rochelle hier soir 53-33. Et puis le suspense, toujours total en Formule 1. 3 pilotes peuvent encore être sacrés la semaine prochaine à Abu Dhabi. Max Verstappen, vainqueur hier au Qatar. Lando Norris, toujours leader du général ce matin, et Oscar Piastri.
C'était le journal de Thibaut Texer. Vous êtes très nombreux à réagir et à témoigner. Matinale spéciale pouvoir d'achat ce matin. Vos courses, comment vous faites-vous pour vous débrouiller face à la flambée des prix? En attendant de recevoir le représentant des industriels à 7h40, Michel-Édouard Leclerc à 8h30. Eh bien, c'est vous que je reçois d'abord. Magali est avec nous. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Magali, responsable comptable à Colmar. Comment vous faites-vous pour payer moins cher?
En fait, moi, j'ai pris mes habitudes depuis des années d'aller dans des magasins qui sont gérés par des producteurs.
Directement du producteur au consommateur.
Oui, voilà. Donc, ils ont c'est des petits magasins qui sont à côté. Et c'est les producteurs et c'est eux qui gèrent aussi la boutique. Vous allez avoir le boucher, celui qui fait sa viande, il va venir en boucherie. Et celui qui vend ses légumes, ils sont là à la caisse et tout. Et j'ai comparé les prix avec le Super U qui est juste en face de chez moi. Hein. Lui, il est en face de chez moi. Et ben, à chaque fois, je m'en sors mieux en allant dans le magasin du producteur, quoi.
Qui en plus a des produits dont vous êtes sûr d'où ils viennent. Ils viennent de pas loin.
Voilà, et de bons conseils, parce que l'autre fois, j'ai acheté un steak, il me l'a proposé plus large. Enfin, voilà, il a toujours des conseils pour mieux gérer, enfin, pour avoir une meilleure consommation de sa viande, quoi, par exemple.
Il va vous dire aujourd'hui, j'ai ça, ça c'est moins cher. Mais voilà. il est loin ou il est près de chez vous, ce magasin?
Ah, il est dans la deux rues à côté.
Ah oui, donc en plus, vous n'avez pas à rajouter quand même l'essence pour y aller.
Non,
il est tout près. Et il est ouvert 7 jours sur 7? Enfin, ou 6 jours
ouvert,
sur 7?
Oui, en Alsace, c'est pas ouvert le dimanche, mais c'est ouvert jusqu'au samedi 13h. Donc, et tous les jours, quoi, de la semaine.
Donc, c'est
parfait.
Il y a
moyen d'y aller tous les jours.
Enfin, vous avez calculé que ça vous faisait vraiment des économies, quoi.
Oui, j'ai comparé plusieurs fois avec l'application des magasins ou Leclerc ou Super U qui sont quand même assez proches de chez moi aussi, hein. Et dans 80%, 90% des cas, c'est moins cher chez mon producteur, chez mon magasin de producteur, quoi.
Donc, directement du producteur. Redites-nous, Magali, où est-ce qu'il est exactement le magasin, tant qu'à faire ceux qui vous écoutent et qui sont tout près?
Il est sur la route de Neuf-Brisach, hein, à Colmar.
Parfait. Merci Magali. On s'occupe de votre pouvoir d'achat toute la matinée jusqu'à 9h et ne manquez pas 7h40 et 8h30, les acteurs de la négociation commerciale qui démarre aujourd'hui. 7h11 sur RMC. Cette question, venez accoucher chez nous et la commune vous offrira 1 000 euros. La proposition surprenante de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Bonjour Emmanuel Riotte.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher et vous rémunérez celles qui choisiront d'accoucher chez vous pour sauver votre maternité. Vous êtes prêt à tout. Vous nous l'expliquez dans un instant. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et RMC Story. Bon lundi à tous. Si vous venez chez nous, eh bien, venez accoucher. Vous gagnerez 1000 euros. Voilà votre nouvelle initiative. Emmanuel Riotte, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le maire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, maire Les Républicains. Et c'est une initiative pour le moins surprenante que vous allez mettre au vote cette semaine. Mais enfin, il y a de grandes chances que ça passe. Il y a moins de 200 naissances cette année dans la maternité de votre commune. Et votre objectif, c'est d'en booster le nombre. Vous avez peur qu'on vous ferme la maternité. Résultat, vous dites aux mères de famille ou aux futures mères, venez accoucher chez nous, on vous donnera 1000 euros de bons d'achat, c'est ça?
C'est ça, ça mérite quelques explications. L'INSEE le démontre, la chute des naissances dans l'Hexagone se poursuit. Notre maternité à Saint-Amand-Montrond n'est pas épargnée, bien évidemment, les chiffres parlent. En 2010, nous avions 400 naissances. En 2026, nous serons tout proches de 200, voire en dessous. En 15 ans, moitié moins de naissances, voilà. Donc le but, c'est effectivement de défendre un service essentiel pour 50 000 habitants. C'est l'avenir d'un bassin de vie qui est en jeu. Donc voilà, il fallait trouver une solution, on a réfléchi et puis on a dit tiens, on peut peut-être attirer des mamans.
Ça sera sûrement très tentant, d'autant plus que vous avez quand même beaucoup de commerçants sur la communauté de communes. Oui. 1000 euros, c'est quand même une sacrée somme. Il y aurait 500 euros de la mairie, 500 euros de la communauté de communes. En même temps, quand je regarde la géographie, parce qu'il y a deux questions qui se posent à vous. Il y a la question de la démographie et la question de la géographie. La géographie d'abord, vous êtes pris en tenaille en quelque sorte, parce que vous êtes à mi-chemin, au milieu pile, entre Bourges et Montluçon. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de mères qui se disent, je vais préférer aller à Bourges ou à Montluçon, j'aurai peut-être des maternités plus grosses et donc plus rassurantes. Qu'est-ce que vous dites sur cet argument-là ?
Alors, nous sommes à 50 km de Bourges, de Montluçon, de Châteauroux et de Nevers. Donc, nous avons 4 préfectures, 4 centres hospitaliers importants. Et donc, nous avons des mamans qui sont en limite de département, qui vont accoucher dans l'hôpital le plus proche, qui est dans d'autres départements. Mon but, c'est d'être attractif et de les attirer dans notre maternité qui est extrêmement bien reconnue et qui est très efficace également. Donc, parfois, il faut faire quelques kilomètres de plus pour venir à Saint-Amand et puis éventuellement, personne. 1000 euros, 500 euros effectivement de la ville de Saint-Amand-Moron et 500 euros de la communauté de communes.
Et puis l'autre question, c'est quand même la démographie, c'est-à-dire que pour le coup, vous aurez beau vous donner tout le mal que vous pouvez, les Françaises font quand même globalement moins de bébés. Est-ce que ça pourrait même inciter des femmes à se dire je me lance?
Alors, il est hors de question qu'une dame qui est en Bretagne parte à 5h du matin pour venir accoucher à midi à Saint-Amand-Moron. On est bien d'accord.
Les choses sont claires.
Parce qu'en fait, j'ai demandé au médecin de la maternité de faire un protocole, d'organiser un protocole d'accueil qui sera mis en place afin de bien définir les conditions d'accueil et d'accouchement avec des visites prénatales obligatoires. Donc, ils vont même mettre ça en place. Voilà. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, les 1000 euros seront en bon d'achat au bénéfice des 150, plus de 150 commerçants qui sont dans la communauté de communes, donc en grande partie à Saint-Amand-Moron. Donc, nous envisageons 150 000 euros chacun, les deux collectivités, donc 300 000 euros, puisque 300 naissances. Et s'il y a 400 naissances et s'il y en a 500, tant mieux, on mettra plus d'argent. Mais ce sera un retour de cette somme, 300 000 euros, chez nos commerçants saint-amandois. Donc, double opération, préserver le maintien de la maternité à Saint-Amand-Moron et dynamiser notre territoire.
Et dynamiser les commerces locaux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Emmanuel Riotte, donc maire de Saint-Amand-Moron dans le Cher, qui offre 1000 euros à chaque maman qui viendra accoucher dans la maternité de votre commune. 7h18, c'est l'heure de remonter le temps. L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Et Arthur, c'est une page qui se tourne. On a appris ce week-end que la chaîne musicale MTV va fermer en France et dans un tas d'autres pays d'ailleurs.
Oui, vous avez sûrement reconnu le groupe Nirvana qui a enregistré son concert le plus célèbre sur MTV. MTV, la première chaîne à avoir diffusé des clips. Mais MTV, Apolline, c'est fini.
Vous nous le dites dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est l'annonce du week-end. La légendaire chaîne musicale MTV va disparaître des écrans français à la fin du mois. Pour vous Arthur, c'est vraiment la fin d'une époque.
Ben oui, MTV est débordé par la concurrence des plateformes comme TikTok et YouTube. Alors ça ne concerne pas que la France, hein, puisque MTV disparaît aussi au Brésil, en Pologne, en Allemagne ou encore en Australie.
Et pourtant MTV avait révolutionné la télévision.
Et la musique, hein, les débuts de MTV c'était en 1980 aux États-Unis. Son concept était simple, faire de la radio mais à la télé, de la musique mais avec des images, ce qui donne une chaîne dédiée aux clips musicaux. C'était une première mondiale et d'ailleurs le tout premier clip musical diffusé sur MTV, c'était Video Kill de Radio Star des Beagles.
Tout un symbole,
oui.
Les clips musicaux, ils existaient avant MTV.
Oui, bien sûr, mais avant, ça n'intéressait pas grand monde. Et c'était d'ailleurs assez rare. Le succès de MTV va tout changer. Désormais, les clips sont au centre de l'industrie musicale. MTV révolutionne aussi les concerts avec les fameux MTV Unplugged. Hein. Le principe était simple. La chaîne invite des stars à jouer uniquement en acoustique.
Et le plus
plus mémorable, c'est évidemment celui de Nirvana en 1993. L'album tiré du concert sera numéro 1 des ventes à travers le monde.
Et MTV va être accusé à un moment de racisme.
Et oui, au début de la chaîne, on s'étonne de l'absence d'artistes noirs. Ça devient un vrai sujet aux États-Unis. La chaîne se retrouve donc sous pression. Et en 1983, MTV accepte de diffuser en exclusivité le nouveau clip de Michael Jackson, Billie Jean. Un carton interplanétaire, hein, c'était la première fois que le clip de l'artiste noir était diffusé sur la chaîne.
MTV, c'est aussi les fameux MTV Music Awards.
Et oui, la première édition a lieu en 1984 et ça devient l'équivalent des Oscars pour la musique. La reine de l'événement, c'est bien sûr Madonna. Souvenez-vous, en 2003, alors qu'elle chante en duo avec Britney Spears, Madonna lui roule une énorme pelle devant les caméras du monde entier. En 2010, c'est au tour de Lady Gaga de faire parler d'elle en arrivant dans une somptueuse robe faite de morceaux de viande crue. Un scandale, hein. Les associations de protection des animaux n'avaient pas beaucoup apprécié.
Qu'est-ce qui reste de MTV aujourd'hui?
Plus grand chose de ce qu'on a connu. Maintenant, les clips, évidemment, c'est sur Internet, hein. Donc MTV a essayé de s'adapter en changeant sa programmation depuis les années 2010. Elle diffuse surtout des télé-réalités et des émissions très bas de gamme, il faut le dire. L'audience s'est effondrée, ce qui explique en partie sa fermeture dans beaucoup de pays européens, à l'exception de l'Angleterre. La chaîne est toutefois maintenue aux États-Unis, mais les années MTV, je vous le confirme, Apolline, c'est fini.
Merci Arthur Chevalier, l'historien, y compris musical, donc, d'Apolline Matin. C'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour.
Et
bonjour.
Salut Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le quasi-porte-parole de la grande distribution en France, Michel-Edouard Leclerc.
Oui, pour une matinale spéciale pouvoir d'achat. Vous vous souvenez du pouvoir d'achat? Mais si, le pouvoir d'achat. Enfin, le truc qu'on avait avant, là, souvenez-vous.
Ah oui.
Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, une fois, j'avais trouvé un billet de 50 balles par terre, avec, j'avais acheté 1 kilo de bonbons, des Raiders, des bouteilles de Banga, le 45 tours de Boys de Sabrina que j'avais vu sur MTV. Et par contre, je sais plus ce que j'ai fait des 40 balles restants. On avait du pouvoir d'achat. Bref, comme la cote de popularité d'Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat se casse la gueule. Ce week-end, d'ailleurs, c'était le Black Friday. Ce lundi, c'est l'Agio Monday. Bon courage à tout le monde. Alors, Michel-Edouard Leclerc s'est opposé à la plainte de plusieurs fédérations du commerce contre Chine. Lui, au lieu de réclamer l'interdiction de Chine, il préfère, je cite, « analyser, apprendre, s'adapter ». Vous allez voir qu'on va se retrouver avec des poupées sexuelles marque repère.
Oh, elle est moche.
Oui, mais elle est pas chère.
Ouais, mais elle sent comme une vieille fromagère des Vosges.
Oui, mais nos régions ont du talent. Puisqu'on est dans le pouvoir d'achat, vous avez commencé vos achats de Noël?
Non.
Ouais, vous avez essayé. Ça va arriver vite, Apolline. Oui. Attention, hein, dans deux condamnations de Nicolas Sarkozy, c'est Noël.
Oh là là, ça, non, oui, ça va.
Alors,
bien
petit
vite,
conseil
ça.
Pouvoir d'achat. La meilleure solution, je vous conseille, attention, c'est de se fâcher maintenant avec les amis et la famille.
Excellente idée.
Comme ça, vous êtes brouillé jusqu'à début janvier. Donc rien de plus simple. Vous les réunissez, vous posez la question.
Un deuxième tour, Bardella, Mélenchon, tu votes qui?
Et alors là, résultat garanti.
Noël tranquille
pendant un mois. Vous êtes tranquille. On est en décembre. Voilà, c'est le mois où on achète tout et n'importe quoi en panique pour les cadeaux de Noël. On
a... Ah, l'Albana des grosses têtes. Encore merci.
C'est vrai que le pouvoir d'achat des Français est impacté en ce moment. On s'est tous offert un petit... Les bouquins de toilette, là. On vous en a offert des tonnes.
Oh là là, tellement.
Donc, le pouvoir d'achat des Français est en baisse en ce moment. Tenez, on s'est tous offert un petit tour au marché de Noël ce week-end et on a pu vérifier. On a pu s'offrir juste un gobelet de vin chaud à 8 euros, une gaufre à 15 euros, une part de tartiflette à 35 balles. Ouais. Et alors là, spéciale dédicace parce que eux, ils commencent à m'énerver. Du nougat à 15 euros les 100 grammes.
C'est bon, quoi?
Non, mais ouais.
C'est
donc,
bon,
toi,
quoi.
Tu te dis, oh, le nougat, c'est léger. Donc, tu te méfies pas quand tu les vois te couper une demi-meule à la 6 ou 2. Sauf qu'ils te coupent 1,5 kg, ils t'en
pour 120
euros. Et toi, tu dis, non, pas 120 euros. Et, c'est trop tard. Je l'ai coupé, il va se dessécher, je peux plus revendre. Fallait me dire. J'en ai vu, des gens repartir chez eux avec assez de nougat pour nourrir un village éthiopien pendant 6 semaines. Et alors, ils sont pas fiers à la maison parce qu'ils savent qu'ils vont se faire engueuler. 120 balles de nougat, mais t'es con ou quoi?
Non mais c'est exprès. J'adore ça.
Arthur Chevalier nous expliquait l'autre jour que c'est Hitler qui avait relancé les marchés de Noël. C'est Al Capone qui a inspiré les commerçants aussi. Hein. C'est la magie de Noël.
C'est
allez,
trop beau.
Rendez-vous avec Michel-Edouard Leclerc.
Arnaud Demange. Wow, c'est Christmas. On le lance, le coup d'envoi donc du calendrier de l'Avent. C'est déjà Noël sur RMC. C'est déjà Noël dans Apolline Matin. Un fabuleux Noël grâce à RMC. Vous allez pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors à gagner, caché dans les petites cases, il y a des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5 ou Switch 2 avec Micromania Zing et plein d'autres cadeaux à découvrir donc jusqu'au 24 décembre. Ça commence aujourd'hui. Et pour jouer, c'est maintenant, vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Le gagnant sera en direct avec moi dans Apolline Matin à 8h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30, matinale spéciale pouvoir d'achat. On s'occupe de vous, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les négociations de paix en Ukraine s'accélèrent. Elles ont de bonnes chances d'aboutir, dit Donald Trump. Son émissaire va discuter du plan américain avec Vladimir Poutine demain, pendant que Volodymyr Zelensky doit rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui. Morte dans la rue en attendant un logement social, la famille d'une retraitée accuse l'État et dénonce sa lenteur. Et du suspense jusqu'au bout en Formule 1. Après la victoire de Verstappen hier, tout se jouera lors de l'ultime course dimanche.
Volodymyr Zelensky attendu ce matin à l'Élysée.
Le président ukrainien reçu par Emmanuel Macron alors que les discussions diplomatiques se multiplient aux États-Unis avec les Ukrainiens cette nuit, demain en Russie où un émissaire américain doit rencontrer Vladimir Poutine. Et même si Donald Trump assure ce matin qu'un accord est proche, les Ukrainiens ne partagent pas son optimisme, Marion Gauthier.
Les sommets s'enchaînent, mais la paix semble lointaine à Grégory.
On veut y croire, en tout cas.
Mais c'est difficile parfois d'y croire.
Il s'arrête, ému.
Oui.
Le Français vit dans l'est de l'Ukraine.
Tous les jours, vous avez des morts. Vous avez 14-15 heures de coupure d'électricité par jour. Vous n'avez pas de chauffage et qu'il fait déjà moins 10. Et qu'on vous dit, ils ont des exigences, ils veulent ça, mais finalement, deux jours après, ils vous disent que c'est dur au jour le jour.
Espoir d'un accord le moins pire possible.
On n'a pas le choix, les gens n'ont pas d'autre pays que celui-ci, ils sont obligés de tenir, même quand ils ne peuvent plus tenir.
Marina a décidé de s'engager dans l'armée.
Il y a 20% de territoires ukrainiens qui sont occupés. Ma ville natale, aujourd'hui, est à 17 km de la ligne du front. Donc ma ville aussi peut disparaître, mes parents y habitent toujours. Mon école peut disparaître, ma maison peut disparaître.
Le soutien de l'Europe, indispensable. Emmanuel Macron peut conseiller Volodymyr Zelensky, souffle Natalia. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que sans l'aide américaine, l'Ukraine peut tenir, mais pas gagner la guerre, dit-elle, avant de confier sa colère et son désespoir.
Marion Gauthier pour RMC. Les montants de vos futurs tickets de caisse se jouent à partir d'aujourd'hui. Ouverture des négociations entre les supermarchés et leurs fournisseurs pour fixer les prix. Moment souvent tendu, à tel point que les deux camps ont pour la première fois signé une charte de bonne conduite. Il est 7h33 sur RMC. La colère d'un fils ce matin. Le fils de Sylvaine, une retraitée décédée en pleine rue à Akimiak en Loire-Atlantique après une expulsion et des mois d'errance administrative. Depuis cet été, avec son mari, elle multipliait les démarches pour obtenir un logement social. Le couple dormait alors dans sa voiture. La famille se retourne aujourd'hui contre les autorités, Martin Lange.
C'est devant des toilettes publiques que Sylvaine s'est effondrée dimanche 23 novembre. Son fils Maximilian est arrivé trop tard.
Quand je suis arrivé sur place, elle était par terre en train de se faire réanimer.
Expulsée de leur domicile de Pierriac-sur-Mer en juillet dernier pour loyers impayés, Sylvaine et son mari ont été hébergés chez Maximilian, puis au camping et à l'hôtel. Mais depuis plusieurs jours, ils dormaient dans leur voiture, malgré plusieurs demandes de logement social puis d'hébergement d'urgence.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un dossier qui a été déposé en 2020. Comment ça a pu en arriver là? Pourquoi il a fallu attendre que ma maman décède pour qu'enfin il y ait une solution pour mon père? Il y a des incompréhensions partout. Il y a plein d'autres familles qui doivent vivre les mêmes situations. Et il faut que les choses, elles changent, que ma maman soit pas morte pour rien.
Le département leur avait proposé des solutions à Nantes ou Saint-Nazaire, mais pas à Pierriac, là où Sylvaine était suivie pour une affection longue durée, d'où la colère de Maximilian qui pointe la responsabilité de la commune, la maire Emmanuelle Dacheux.
On a très très peu de logements sociaux, il n'y a pas de turnover, donc on n'avait rien à leur proposer. Il n'y a vraiment pas eu de dysfonctionnement municipal. Je comprends la détresse du fils et ils se sont trompés de responsable.
Depuis le drame, le mari de Sylvaine est hébergé dans un dortoir pour travailleurs saisonniers.
Martin Lange pour RMC. C'était une promesse d'Emmanuel Macron et elle entre en vigueur aujourd'hui. Les fauteuils roulants sont désormais remboursés à 100% par la sécurité sociale. Cela inclut aussi les différentes options qui peuvent être ajoutées à un modèle classique, assure l'Élysée. Une séquence cruciale s'ouvre aujourd'hui au procès de Frédéric Péchier, cet ancien anesthésiste accusé d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 ont perdu la vie. Ses proches vont être appelés à la barre pour éclairer la cour sur la personnalité du médecin Pierre Bazin.
Oui, il s'agit de la véritable zone d'ombre qui plane sur ce procès. Si l'ancien anesthésiste est bien le serial killer que l'accusation décrit, quelle est l'origine de ce destin meurtrier? L'un des enquêteurs pointait vendredi la relation difficile entre Péchier fils et père, anesthésiste également, et présenté comme un père fouettard. Une relation qui aurait fabriqué le monstre Frédéric Péchier, selon l'enquêteur, nourri de frustration et de sentiments de rejet. L'ex-femme de l'accusé, elle, a-t-elle vu le complexe d'infériorité de son mari nourrir un parcours criminel? Les écoutes téléphoniques de l'ancien anesthésiste et de ses proches seront nécessairement au cœur des débats. Des heures d'écoute où se mêlent mensonges et solidarité dans la tempête. Mais au-delà des mots, c'est aussi l'attitude de l'accusé qui sera forcément scrutée pendant la déposition de ses proches.
Pierre Bazin du service police-justice de RMC. La garde à vue d'un septuagénaire a été prolongée. Il est soupçonné d'avoir écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella ce week-end. Cet agriculteur à la retraite l'avait déjà fait sur Éric Zemmour en 2022. Une manière, selon lui, à l'époque, de dénoncer les propos du patron de Reconquête sur l'autisme.
7h35, le foot et les Lensois attendaient ça depuis 21 ans.
Le RC Lens est leader de Ligue 1 ce matin grâce à sa victoire 2-1 à Angers hier et grâce aussi au faux pas de Marseille et du PSG ce week-end. De quoi entretenir une course au titre qu'on espère aussi palpitante qu'en Formule 1. Avec sa victoire au Grand Prix du Qatar hier, Max Verstappen s'est rapproché du leader du classement Lando Norris. Il ne reste plus qu'une course, Arnaud Valadon, et trois pilotes se tiennent en quelques points.
Pour être champion du monde pour la cinquième fois, Max Verstappen doit remporter le dernier rendez-vous de la saison et espérer que Lando Norris ne finisse pas sur le podium. En revanche, le pilote britannique de McLaren, toujours leader avec 12 points d'avance, sera lui assuré de devenir champion pour la première fois s'il finit bien dans le trio de tête dimanche prochain. Mais ils sont bien trois pilotes pouvant décrocher le titre puisque Oscar Piastri, coéquipier de Norris chez McLaren, est en embuscade. L'Australien, longtemps leader cette année, doit finir au minimum premier ou deuxième et bénéficier de contre-performances de ses concurrents directs. C'est la troisième fois en 15 ans que le titre se jouera lors du dernier Grand Prix de la saison. La dernière fois en 2021, sur ce même circuit à Abu Dhabi, Max Verstappen avait dépassé Lewis Hamilton dans le dernier des 58 tours pour s'adjuger son premier sacre.
Et ce Grand Prix d'Abu Dhabi dimanche prochain, vous le suivrez évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, sa favorite c'est le numéro 13, Idéal de Castel. Son outsider, le numéro 15, Hermès de Guèze.
C'était le journal de Victor Porcher, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est aujourd'hui le jour J, l'ouverture des négociations commerciales, là où se décident les prix qu'on va payer, nous consommateurs, à la fin de l'année. Matinale spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Bonjour Nicolas Facon.
Bonjour.
Merci
Pauline
d'être dans ce studio avec nous ce matin. Pour cette matinale spéciale prix, vous représentez les industriels parmi les plus gros. Danone, Fleury Michon, Ferrero France, Lustucru. Vous nous le dites dans un instant. Chacun joue sa partition. Comment se constituent les prix? Quelles seront les hausses? Quelles seront les baisses? Toutes les réponses dans un instant sur RMC. Et vos témoignages, vous qui nous écoutez, vous nous appelez au 3216 pour intervenir sur l'antenne en cette matinale spéciale pouvoir d'achat, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, ce matinal spécial pouvoir d'achat sur RMC. Plus 27% pour le café, plus 20% pour le chocolat, plus 12% pour la viande hachée. Les prix vont-ils continuer à flamber l'an prochain? Bonjour Nicolas Facon.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le patron de Lilec. Lilec, ça représente tous les gros industriels de l'alimentation. C'est les marques qu'on a dans nos frigidaires. C'est Danone, Fleury Michon, Panzani, Le Sieur, Herta. J'en cite quelques-uns, mais parmi un très grand nombre. C'est aujourd'hui quasiment le coup d'envoi de votre Coupe du Monde à vous, c'est-à-dire la négociation des prix. Vous avez 3 mois, pas un jour de plus, pour vous mettre d'accord, vous, les grands industriels, et face à vous, la grande distribution. Et c'est maintenant que se décident les prix qui seront in fine dans nos rayons. Ça monte ou ça descend ?
Alors déjà, peut-être une précision, ce qui se discute pendant ces négociations, c'est les prix entre les industriels et les distributeurs. Le prix final payé par le consommateur, ce sont les distributeurs qui le décident.
Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils vous achètent à un certain prix qu'ils vont pas, eux, derrière, gonfler ces prix. Vous n'avez aucune maîtrise, c'est-à-dire que Danone, Herta ne gèrent pas le prix qu'on va finalement payer dans le rayon.
Non, parce que finalement, ce prix-là, ce prix du commerçant, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du coût aussi et des charges qu'ont les commerçants, mais ça dépend aussi de l'intensité concurrentielle qu'il peut y avoir entre les enseignes. Voilà, donc...
Vous dites ça comme si c'était une forme de... voilà, vous voulez dire dès le début, attendez, en fait, quand même, ceux qui fixent les prix à la fin... C'est les distributeurs.
Oui, c'est la loi, c'est le commerçant qui décide de son prix et l'industriel n'a pas le droit d'intervenir sur la fixation du prix et c'est bien comme ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut juste avoir cette précision là. Là, ce qui se joue maintenant entre maintenant et le 1er mars, c'est les prix entre l'industrie et la distribution.
Alors on sait qu'évidemment aujourd'hui c'est le jour où vous allez chacun dire ben plus 5, non plus 2, non moins 1, non moins 3 et à la fin vous arriverez à vous mettre d'accord. C'est une négociation d'ailleurs parfois dans la douleur, franche voire même brutale. Mais pour qu'on comprenne bien et qu'on puisse suivre ce chemin avec vous, au moment où on se parle, sur quel type de hausse sont les industriels ?
Alors pour moi, c'est trop tôt pour vous le dire, parce qu'en fait, les industriels ont jusqu'au 1er décembre pour envoyer leur demande tarifaire. Donc la demande tarifaire, c'est ce que demandent les industriels, c'est le démarrage de la négo. Bien évidemment, entre la demande initiale et le résultat final, il va se passer effectivement ces 2-3 mois de négociation. C'est pour ça que moi, je peux pas vous dire aujourd'hui quels seront les tarifs. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que on n'est pas dans une période d'inflation, c'est d'hyperinflation. On l'a vécu, on l'a tous vécu depuis 2022, 2023, et ça a été colossal à la fois pour les consommateurs, mais également pour toute la chaîne qui part des agriculteurs, des industriels, des distributeurs jusqu'aux consommateurs. Et aujourd'hui, on est revenu à une inflation qui est très, très modérée. Depuis le début de l'année, elle est à plus 1% en fait sur les produits dans la consommation, plus 1,3 pour être très précis.
Ça devrait se maintenir ? Vous pensez que
oui,
si on se projette dans un an, on est sur ce genre de trajectoire ?
Je pense. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que si inflation il y a, elle sera contenue, elle sera modérée.
Vous avez dit, il y a toute la chaîne. Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole justement à un éleveur bovin. Il s'appelle Emmanuel. Il vit en Vendée. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Apolline.
Emmanuel, vous-même, vous êtes éleveur. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là de ces négociations ? Au fond, vous, votre partie, elle est jouée, elle est déjà derrière, puisque la vente aux industriels et la négociation entre les agriculteurs et les industriels, c'est avant. Maintenant, c'est entre les industriels et la grande distribution que ça se joue. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu et d'avoir été payé au juste prix ?
Aujourd'hui, on est mieux payé qu'on l'a été. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que même qu'on est mieux payé, les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, le lait et la viande, enfin moi je suis producteur des deux,
ouais.
Donc je suis bien placé pour le savoir, le lait, avant même que ces négociations-là commencent, nos coopératives qui nous achètent notre lait, nous ont déjà annoncé une baisse du prix du lait. Donc, si derrière ça, je ne comprends pas pourquoi les négociations n'aboutiraient pas à la baisse, nous on nous annonce déjà des baisses. C'est déjà scandaleux. Il n'y a pas une négociation de passé avec les grandes surfaces que nos industriels nous annoncent déjà des baisses.
Vos industriels, c'est, alors je ne sais pas en l'occurrence qui c'est pour vous,
mais on va prendre des grandes coopératives ouais. Style Agrial, tout ça, c'est des boîtes qui annoncent des baisses de prix.
Et qui fournissent derrière Lactalis, Danone. Justement, je voudrais que Nicolas Facon puisse vous répondre. Ça veut dire qu'au fond, au tout début de la chaîne, c'est-à-dire au moment des producteurs laitiers par exemple, quand on leur dit ça va baisser, à la fin, on devrait retrouver des prix à la baisse dans nos rayons. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ?
Alors déjà, il faut, pour bien expliquer, c'est ce que cet éleveur a dit, c'est-à-dire qu'il y a le prix entre l'éleveur et le transformateur, qui est lié effectivement à un certain nombre de discussions, de négociations, mais il y a aussi l'influence des cours mondiaux. Malheureusement, pour l'agriculture et particulièrement pour l'agriculture française,
c'est quasiment de la spéculation.
C'est à la fois de la spéculation parfois, parce qu'on voit qu'il y a des fonds d'investissement qui peuvent spéculer sur les matières agricoles au niveau mondial, donc ça joue. Mais il y a aussi des effets d'offre et demande au niveau mondial qui vont influencer sur les cours.
Oui, mais j'ai envie de dire dans ces cas-là, pourquoi ça baisse jamais ?
Ah bah si, il y a des il y a des baisses.
C'est rare quand même qu'à la fin on voit des baisses dans les rayons. Moi j'ai rarement vu des prix du lait qui baissent.
Alors c'est là où c'est on a toute une chaîne en fait et quand vous avez des fluctuations très importantes parce que c'est le cas en fait hein, depuis 2020 on a des fluctuations très importantes des cours de matières premières et notamment des cours de matières premières agricoles. Le but des entreprises c'est de lisser en fait ces mouvements de va-et-vient et c'est de et d'essayer d'avoir des couvertures longues. Donc quand ça monte quand la matière première explose, vous ne retrouvez pas toujours des hausses de prix correspondantes et inversement quand ça baisse aussi. Donc il y a un temps d'adaptation et il y a un temps de répercussion et il y a un phénomène d'amortissement.
Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce que vous nous dites, hein, Emmanuel, c'est important de le souligner, c'est que vous dites que vous êtes quand même mieux payé qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que cette fameuse loi qu'on appelle la loi Egalim qui garantit désormais que les agriculteurs restent payés pour la marchandise.
Oui, tout à fait. C'était le but de ces lois Egalim, c'est de travailler sur la souveraineté agricole et alimentaire et de faire en sorte que le revenu des agriculteurs soit mieux pris en compte. Ce qui est important de dire, et c'est ce qu'a dit cet éleveur-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend le cours du lait ou le cours de la viande de bœuf, il est très élevé. Et ça faisait très longtemps qu'il avait été aussi élevé. Par contre, ce qui s'est passé aussi, c'est que les coûts de production agricole pour les agriculteurs ont considérablement augmenté. Les engrais, le gasoil, etc., etc. Donc effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que à la fois ils bénéficient de cours très élevés, mais à la fin du fin, pour eux, il n'y a pas eu forcément une amélioration nette.
L'année dernière, le président de l'ANIA, qui représente aussi des grandes marques comme vous, avait dit de la grande distribution, je cite, qu'elle écrase les industriels. Est-ce que vous redoutez, à nouveau, malgré une charte de bonne conduite que vous avez signée hier, que ces négociations se fassent dans la brutalité?
Alors cette charte, elle est importante et on va y revenir. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez une situation qui est très déséquilibrée. C'est-à-dire, si on prend le cas des produits alimentaires, vous avez aujourd'hui 400 000 agriculteurs en France. Vous avez 20 000 entreprises qui transforment, en fait, cette matière première agricole en France. Et il reste aujourd'hui 3 centrales d'achat, en fait, pour négocier.
C'est-à-dire qu'on part de 400 000 agriculteurs, ouais. 20 000 grandes marques d'industriels, et à la fin, il y a 3 centrales d'achat.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il y a une concentration maximale des distributeurs. C'est un entonnoir. Vous êtes pris dans un entonnoir.
Voilà. Et donc, le but de cette charte, c'est de faire en sorte que, face à cette concentration des acteurs, on puisse retrouver un cadre apaisé et normalisé des négociations.
Enfin, moi, j'ai quand même halluciné parce que je l'ai lu, cette fameuse charte que vous avez signée ce week-end. Et dedans, il y a des phrases comme, par exemple, « Nous devons, dans la mesure du possible, respecter les horaires fixés pour les rendez-vous. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en creux, on en comprend que dans les négociations, tout est bon à prendre, y compris le fait de vous faire patienter pendant des heures dans des salles, pour que quand vous arrivez pour négocier enfin le prix avec la grande distribution, vous soyez prêt à craquer, quoi, finalement.
Oui, mais c'est bien ça, en fait. Hein. Cette charte, en fait, c'est vraiment un symbole et un changement d'état d'esprit. Et c'est important parce que tout part de l'état d'esprit. Comme vous le dites, en fait, il y avait des comportements aujourd'hui qui n'étaient pas acceptables. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la tension économique. Derrière, il y a des comportements qui dérapent. Et comme il y a des comportements qui dérapent, on a encore plus de tensions. Donc finalement, c'est ce système-là qu'il faut casser. Il faut revenir à des comportements normaux. C'est le premier axe de cette charte qui vise effectivement à instaurer un climat apaisé.
Michel-Édouard Leclerc sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Vous avez quelque chose à lui dire ?
Non, mais Michel-Édouard Leclerc, comme l'ensemble des distributeurs, a été co-signataire à travers la Fédération du Commerce et l'ensemble des industriels. Je pense qu'on a là l'occasion unique, parce que c'est pas arrivé depuis très longtemps, hein. Ces négociations, elles se passent mal depuis très longtemps, de faire différemment, en tout cas d'essayer. Et encore une fois, toute une question de comportement et de volonté.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Facon. Ça se lance donc aujourd'hui, ces négociations commerciales. Vous reviendrez régulièrement. Vous avez 3 mois donc pour constituer ces fameux prix qui seront les prix qu'on payera dans nos rayons. Et merci aussi à Emmanuel, éleveur en Vendée. Il est 7h51. Dans un instant, ce sera la voix de droite sur RMC puisque nous sommes lundi. Jordan Bardella, agressé pour la 2e fois en une semaine. C'était ce week-end, il a reçu un œuf sur la tête. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour
Louis,
Apolline.
Voix de droite sur RMC. Pour vous, c'est inacceptable, mais c'est pas inédit. Hein.
Oui, il a reçu un œuf, mais Jordan Bardella n'a pas non plus été victime d'un attentat.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite sur RMC. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le film de Noël par excellence.
Est-ce que vous reconnaissez Apolline ?
C'est Maman, j'ai raté l'avion.
Eh bien oui, bien ouais, plus culte que la plupart des téléfilms qui inondent vos chaînes en ce moment. Les oreilles averties ont reconnu Maman, j'ai raté l'avion, Maman, j'ai encore raté l'avion. Et 35 ans après, Macaulay Culkin dit son souhait de voir l'histoire se transformer en trilogie. L'enfant star des années 90, eh bien il a 45 ans aujourd'hui, mais il garderait bien le premier rôle dans son esprit. Écoutez, Kevin, aujourd'hui adulte, serait veuf ou divorcé, un père célibataire débordé par son travail qui accorderait trop peu d'attention à son fils. À Noël, l'enfant blessé décide de l'enfermer dehors et, fini les cambrioleurs farfelus, le père se retrouverait piégé hors de sa propre maison et tenterait de regagner ainsi le cœur de son fils. Alors, Maman, j'ai raté l'avion, une suite, oui, mais il faudrait que ce soit parfait, dit l'acteur. Ce n'est pas le vœu du réalisateur des deux premiers volets, Chris Columbus, qui avait lui récemment déclaré qu'il valait mieux laisser ce film culte en paix.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour
Jordan
Apolline.
Bardella a donc été la cible ce week-end d'un jet d'œufs lors d'une séance de dédicace. Le président du RN dénonce une brutalisation du débat démocratique. Louis Sarkozy, vous partagez le diagnostic ?
Oui, la semaine dernière, Jordan Bardella a reçu de la farine, cette semaine un œuf, la semaine prochaine peut-être des pépites de chocolat, et on aura un beau gâteau de la bêtise. En tout cas, clairement, c'est inacceptable. Mais il ne faut pas transformer cela non plus en apocalypse républicaine. Déjà parce que ce genre de geste, en réalité, renforce le RN plus qu'il ne l'affaiblit. On leur offre exactement ce dont ils raffolent, l'opportunité de se poser en victime d'un système hostile. Quiconque ou quelconque idiot veut faire ce genre de choses à un responsable politique doit comprendre que cela les sert, pardon, plus que cela ne les atteint. On croit les attaquer, on leur donne en réalité du carburant politique.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a réagi hier. Il a dit qu'il y avait effectivement une montée des violences politiques.
Peut-être, mais il s'agit quand même de garder un peu de perspective historique. La violence politique aujourd'hui est bien moindre qu'elle ne l'a jamais été. Ronald Reagan s'est pris une balle en 1981, je vous le rappelle. Il est resté 10 jours à l'hôpital et en est ressorti plus fort. Au siècle dernier, Teddy Roosevelt s'est fait tirer aussi dessus dans le torse avant de finir, accrochez-vous bien, un discours d'une heure avec le sang visible à travers sa veste. De Gaulle a survécu au petit Clamart sans aller se plaindre sur un plateau télé. Ces hommes-là ne se présentaient pas en victime. Un œuf n'est pas un effondrement démocratique. Ce n'est pas glorieux, mais c'est pas non plus un attentat d'État.
Donc vous dites quoi? Que c'est pas si grave? Qu'en tout cas la violence fait partie du jeu?
Je dis que c'est condamnable, bien évidemment, mais pas du tout inédit. La violence a toujours accompagné la politique française. Émeute, coup, duel, assemblée, ivre de passion. Bonaparte a failli mourir dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise et Paul Doumer a quand même été assassiné. Nous sommes un pays qui débat fort et parfois qui frappe fort. Alors qu'on ne vient pas me dire que la violence politique est inédite ou nouvelle. Regardez Trump, il s'est fait tirer dessus dans l'oreille pendant son meeting. Il est revenu poing levé sur scène, le visage couvert de sang. Et le public a réagi, non pas à la plainte, mais au courage. Les gens suivent ceux qui tiennent debout, ceux qui transforment chaque projectile en force et pas chaque projectile mou en tragédie nationale.
Donc la réponse pour vous, Louis Sarkozy, ça doit être de ne pas en faire des tonnes, quoi.
Mais bien sûr, il faut condamner, c'est la première chose à faire. Mais rappelons aussi que malgré que ça soit inacceptable, il ne faut pas offrir au RN le rôle de martyr dont il rêve. Une démocratie ne se renforce pas en pleurant un œuf, elle se renforce quand on montre qu'un geste, aussi désagréable soit-il, ne nous désarme pas. La politique, c'est pas un salon de thé non plus, il faut le rappeler, elle est rude, elle l'a toujours été, et les Français ne respectent pas ceux qui s'effondrent, ils respectent ceux qui encaissent et qui avancent.
Merci Louis Sarkozy. Louis Sarkozy qui estime donc que lancer un bœuf, un œuf, ce n'est pas lancer un bœuf. En bref, ce n'est pas un attentat d'État. Le message donc de notre voix de droite ce matin. Louis Sarkozy, merci Louis. Demain à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h, les industriels qui réclament une hausse, la grande distribution qui veut toujours aller à la baisse, débat, début aujourd'hui des négociations commerciales en France. Combien vont coûter nos courses l'an prochain, matinale spéciale pouvoir d'achat? On vous explique tout dès le début du journal, à quel prix s'attendre. Côté météo, c'est le début de l'hiver, vous allez l'entendre, le vrai. Et puis juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre. Ils font parfois plus de 2 fois la taille d'un terrain de foot, mais ils séduisent moins de consommateurs. Manu Le Chypre, vous nous parlez des hypermarchés.
Oui, et je vous raconte un peu comment se réinvente ce modèle pour nous séduire à nouveau.
A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.